I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 24e épisode, je reçois Laetitia, sage-femme libérale. Après de nombreuses années à exercer en milieu hospitalier, elle s'est installée en libéral dans le sud de la France depuis 5 ans. Après son installation, elle a choisi de se former avec un DU, diplôme universitaire au suivi gynécologique et à l'accompagnement des IVG, les interruptions volontaires de grossesse. En France, 200 000 IVG sont pratiquées par an, et lorsqu'une femme souhaite interrompre sa grossesse, elle peut s'adresser à un ou une gynéco, un médecin généraliste formé à l'accompagnement de l'IVG, un centre d'IVG hospitalier appelé centre d'orthogénie, au planning familial ou à une sage-femme formée à cette pratique. Dans cet épisode, Laetitia nous donne les délais applicables en France pour avoir recours à l'IVG et quels sont les bilans qui sont effectués avant et après une interruption volontaire de grossesse. Elle nous détaille le déroulé des deux méthodes qui peuvent être utilisées, l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale, et notamment pour la première méthode qui se fait à domicile, elle nous parle de la gestion de la douleur potentielle et des saignements qui accompagnent cette IVG. Elle explique quelle est la prise en charge de ces actes en France et le cas particulier des jeunes filles mineures. Enfin, elle aborde les violences obstétricales, les complications potentielles et le choix d'une contraception adaptée à chaque femme, élément central pour éviter les grossesses non désirées. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laetitia.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Avec plaisir.
On va parler de l'IVG. Mais avant, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton métier ?
Alors, moi, je suis sage-femme. J'ai été diplômée en 2006. J'ai commencé, du coup, mon activité professionnelle par un milieu hospitalier. J'ai travaillé dans une structure privée, mais sans but lucratif, sur Toulouse pendant 11 ans. Et puis, la vie m'a amenée à déménager. Et donc, c'est là que, du coup, j'ai cherché une autre voie et je me suis installée, du coup, en libéral. Donc, je suis sage-femme libérale depuis bientôt 5 ans. Et depuis 2009, les sages-femmes sont autorisées, du coup, à faire le suivi préventif en gynécologie. Alors, moi, j'ai été diplômée avant l'élargissement des compétences. Donc, quand je me suis installée en libéral, j'ai ressenti le besoin de me former. Donc, j'ai fait un DU sur le suivi de gynécologie. Et dans ce suivi-là, il y avait notamment une partie... en lien avec la procréation et notamment aussi la régulation des naissances. Et c'est là que, du coup, je me suis aussi formée pour pouvoir accueillir et accompagner les patientes, du coup, pour un processus d'arrêt de grossesse sur les IVG. Donc, en tant que sage-femme, je peux accueillir, du coup les patientes pour cet accompagnement-là.
D'accord, ok. Alors moi, je savais même pas que les sages-femmes pouvaient faire ça. Donc je trouve ça hyper intéressant qu'on fasse cet épisode ensemble. Pour moi, c'était une partie qui était vraiment réservée aux cliniques et aux gynécos. Donc on va détailler un petit peu tout ça ensemble.
Et puis de façon générale, la place de la sage-femme dans le suivi gynécologique, il est très peu connu. Et c'est vrai que ça, tu vois, moi je suis dans une région rurale et beaucoup de gynécologues de ville sont proches de la retraite et du coup, il manque beaucoup de suivi. Et j'ai beaucoup de patientes qui sont bien contentes d'avoir possibilité de venir faire leur surveillance, leur renouvellement de contraception, les surveillances de frottis avec une sage-femme.
Oui.
Et après, voilà, par contre, on ne se substitue pas du tout aux médecins, hein, spécialistes en gynécologie, donc on a vraiment besoin en collaboration. On est, nous, dans première ligne, tout ce qui est préventif, et dès qu'on dépiste un souci médical, on se doit, et c'est de notre rôle, de ne pas gérer la pathologie et de le réadresser à un médecin qui a les compétences pour pouvoir solutionner tout ça.
Ok, ça marche. Si on attaque sur l'IVG,
ouais.
Est-ce qu'en France, tu as une idée du nombre d'IVG en moyenne qui sont pratiquées ?
C'est 220 000 interruptions de grossesse en France chaque année.
D'accord.
Ce qui est énorme statistiquement. Et on n'arrive pas, en fait, malgré, tu vois, les professionnels qui se forment, malgré la contraception, il y a toujours autant de ratés et toujours autant de patientes qui sont face à cette grossesse imprévue. Et heureusement, on a la chance en France d'avoir possibilité d'interrompre cette grossesse quand on ne souhaite pas la poursuivre.
La majorité des cas d'IVG, c'est des personnes qui ne souhaitent pas continuer une grossesse ?
Ouais, c'est ça. En fait, en tout cas, moi, dans mon cabinet, c'est essentiellement ces femmes-là que je vais rencontrer. C'est la plupart du temps, et quand tu discutes avec elles, c'est pas forcément, tu vois, le cliché d'une patiente qui n'a pas de contraception et qui fait n'importe quoi de ta vie, quoi. T'as beau faire ton métier, expliquer aux patientes comment prendre la contraception, et bien la vie fait que t'as d'autres choses à penser et que y a beaucoup de grossesses. Sur des erreurs, soit manque de connaissances, soit des oublis. Voilà, c'est une épreuve à passer pour elles, mais voilà, elles le comprennent, elles ressentent vraiment voilà, cet accompagnement très utile et se sentir soulagées d'avoir possibilité d'arrêter cette grossesse qui n'était pas attendue et qu'elles ne peuvent pas assumer. Et après, voilà, c'est derrière les accompagner pour trouver une contraception en relais et faire en sorte de réfléchir avec elles en fonction de leur rythme de vie et de comment elles ont des contraintes, qu'est-ce qui, à leur place, pourrait être envisageable pour éviter de se retrouver dans une même situation plus tard, quoi.
Ouais, c'est pas ce qu'on entend parfois, une contraception de confort. Faire une IVG, c'est pas du confort, c'est une épreuve à passer. Alors, une fois qu'on découvre qu'on est enceinte et qu'on souhaite interrompre cette grossesse,
oui.
Quels sont les délais qu'on a pour pouvoir faire cette IVG en France ?
Déjà, dans le monde médical et au niveau des délais, on prend en compte le délai en absence de règles. C'est-à-dire que quand tu débutes une grossesse, le premier jour de ta grossesse correspond à 2 semaines déjà d'absence de règles. Et au niveau médical, les femmes qui ont eu l'habitude, soit parce qu'elles ont débuté une grossesse, soit parce qu'elles ont été déjà enceintes, on parle de semaines d'aménorrhée. Donc le terme aménorrhée, c'est absence de règles. Et donc en France, on a possibilité du coup de bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, ce qui est l'équivalent de 12 semaines de grossesse. Et dans ce timing-là, mais en tout cas, il y a possibilité de faire 2 méthodes, soit par voie médicamenteuse, soit par voie chirurgicale. Et là, les délais vont effectivement dépendre de la méthode choisie, parce qu'on ne peut pas prétendre à l'IVG, notamment médicamenteuse, au-delà d'un certain délai, où on pourrait malheureusement avoir un peu plus de risque d'échec. Donc, pour éviter ça, il est préférable de faire une IVG chirurgicale.
D'accord, donc il y a 2 méthodes, la médicamenteuse et chirurgicale.
Oui, tout à fait.
C'est en fonction du délai de la grossesse, enfin du temps dans lequel on est dans la grossesse, ou il y a d'autres critères qui rentrent en compte ?
Alors, le critère, en fait, si tu veux, c'est que c'est la femme qui choisit. En tant que professionnelle, quand moi je reçois une patiente, je suis là, moi, pour discuter avec elle, de voir qu'est-ce qui l'a menée à avoir cette grossesse, du coup, qui a débuté, qu'elle souhaite arrêter. Est-ce que sa décision semble éclairée, claire ? Est-ce que ça semble, voilà, avoir déjà été réfléchi ? Parce que, du coup, moi, je suis là pour pouvoir discuter avec elle sur ce choix-là. On a après, du coup, l'information que l'on doit donner concernant les différentes méthodes, avec les avantages et inconvénients, et c'est la femme qui choisit. D'accord ? Ce n'est pas le professionnel, ni le délai. Alors, le délai va impacter un petit peu une décision, mais c'est que si on est bien avancé dans le début de la grossesse, pour l'IVG médicamenteuse, c'est la prise de médicaments. Donc, un médicament va être pris en ma présence. Ce médicament a pour but d'interrompre la grossesse. et je vais après confier à la patiente un autre médicament qu'elle prendra chez elle, à son domicile, 2 jours après. Il va permettre du coup d'entraîner les contractions qui permettront d'évacuer la grossesse arrêtée. Voilà, donc du coup, l'IVG médicamenteuse, moi, dans le contexte accompagnement libéral, voilà comment ça se passe pour les patientes. Après, en fonction des patientes, il faudra qu'on échange, qu'on discute du coup de son choix. Est-ce que du coup, elle se sent prête à pouvoir faire ça chez elle? Et si elle ne souhaite pas faire ça chez elle, c'est tout à fait possible d'être accompagnée en milieu hospitalier. Et donc, cette méthode par voie médicamenteuse ne peut se faire que jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Donc, l'équivalent donc de 7 semaines de grossesse en milieu hospitalier. Par contre, si elle souhaite le faire à son domicile, accompagnée d'une présence d'une personne de confiance avec elle, ça ne peut être fait normalement que jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, donc 5 semaines de grossesse. Mais ce délai a été autorisé de façon dérogatoire pendant le contexte du confinement. Donc là, on a encore possibilité d'accompagner les jeunes femmes jusqu'à le même délai qu'en milieu hospitalier, en fait.
D'accord. Quand tu parles d'une personne de confiance, c'est forcément une personne qui a un rôle médical ou ça peut être une amie, une personne de la famille
Voilà, tout à fait. Donc du coup, je crois, alors je ne sais pas, peut-être qu'on détaillera peut-être un peu plus le cas particulier des jeunes filles mineures, mais dans tous les cas, la décision, même si la plupart des femmes que je reçois viennent en couple, parce que du coup, elles ont débuté cette grossesse non attendue en couple, cette décision est individuelle. C'est la femme seule qui va pouvoir décider de ce qui va pouvoir être fait. Donc, bien sûr que la plupart des femmes tiennent compte de la vie de leur compagnon, mais cette décision peut être faite seule. Le jour, du coup, où elles sont à la maison, où elles prennent les médicaments, on est toutes vraiment différentes, tu sais, face au ressenti de la douleur. Mmh. Et dans ce contexte bien particulier, c'est toujours bien d'être soutenue. Et si jamais, parce que là, je détaille avec les patientes, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elles vont ressentir, quels sont les critères qui leur permettront de dire, ben, tiens, là, peut-être qu'il faut que j'appelle la sage-femme parce que peut-être que ça sort du cadre habituel. Je peux être amenée téléphoniquement à faire le point avec les dames et leur dire, effectivement, là, il est nécessaire d'aller à l'hôpital, faire le point pour être sûre qu'il n'y ait pas une complication. Et donc, dans ce contexte-là, on se doit d'avoir du coup une personne de confiance avec un permis du coup qui puisse te véhiculer, parce qu'il faut qu'on soit du coup dans le contexte, moi, que j'accompagne à moins d'une heure du centre hospitalier avec qui je suis conventionnée, c'est-à-dire l'hôpital où je vais pouvoir envoyer mes patientes et elles seront prises à tout moment par les gynécologues de garde. Donc on signe une convention avec un milieu hospitalier pour pouvoir sécuriser cette IVG qui peut parfois, même si c'est rare, entraîner des complications. Il faut pouvoir avoir possibilité d'aller à l'hôpital.
Dans tous les cas, dans le cadre d'une IVG médicamenteuse, il y a perte de sang à un moment donné et il y a douleur ou pas forcément?
Alors du coup, la douleur, elle est effectivement présente. Par contre, elle peut être tout à fait modérée et on anticipe cette douleur. Même si le parallèle n'est pas aussi évident, de se dire c'est un peu comme des douleurs de règles un peu plus importantes. On va du coup anticiper les choses, c'est-à-dire qu'il y a un petit protocole. En tout cas, on n'impose jamais aux femmes. Et la plupart du temps, en fait, j'ai été assez étonnée. Moi-même, tu vois, avant d'accompagner les patientes, je pensais que peut-être elles allaient avoir un vécu beaucoup plus important au niveau du ressenti de la douleur. Et finalement, aucune ne m'a décrit, tu vois, en retour, j'ai eu très mal. Alors du coup, mes patientes, la plupart du temps, elles prennent du coup du Spasfon et du paracétamol 30 minutes avant. Et ensuite, l'idée, ça va être d'aller chercher à vous occuper. Si vous aimez vous balader, ben allez vous faire une balade. Si vous adorez regarder les séries, allez vous regarder une série que vous appréciez. Si vous aimez bouquiner, bouquinez. De façon à ce qu'elles aient l'esprit, tu vois, un peu occupé. Ce côté diversion qui va vraiment être aidant. Et après, il y aura forcément un ressenti qui va se faire. Et la plupart du temps, elles sont soulagées de sentir que ça se passe parce que du coup, c'est une épreuve à passer. Mais elles te disent que oui, effectivement, c'était ressenti, mais qu'elles ont géré. Je leur donne la petite astuce qui marche super bien, de la bouillotte chaude, c'est des choses toutes simples, mais qui va permettre de détendre. Je leur dis même certaines, si vous avez envie de prendre un bain chaud, ça va permettre de détendre et de faciliter aussi l'IVG. Parce que du coup, les contractions ont pour but d'évacuer, mais pour qu'il y ait une possibilité d'avoir les saignements et l'évacuation, il faut que le col de l'utérus se détende et s'ouvre. Finalement, d'être bien, ça va leur permettre du coup de pouvoir laisser faire.
La perte de sang, elle dure combien de temps?
Alors du coup, dès les premiers médicaments, on va avoir en fait une perception que ça commence un peu comme des règles. Et puis après, ces règles vont être un peu plus abondantes. Et ensuite, du coup, il va y avoir, de façon assez normale, comme des petits caillots, du sang coagulé qui va se former et du coup, on va évacuer. Alors, dans le critère, parce que parfois, je donne toujours l'information, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder, mais beaucoup de patientes, de façon normale, des fois, observent, tu vois, tu es aux toilettes et tu regardes ce qu'il y a dans les WC. Mm-hmm. Je rassure mes patientes en leur disant, vous n'allez rien voir de particulier. L'aspect visuel que l'on a lorsqu'il y a une IVG dans ce contexte tôt de grossesse, c'est un aspect, si tu me permets du coup de le décrire, un peu comme du blanc d'œuf. Donc je leur dis, vous verrez que ça. On sent donc des règles qui arrivent, un peu plus abondantes, perte de caillots, et après évacuation, les femmes ressentent que ça descend et que c'est du coup le caillot qui sort. Et après, elles sentent du coup là une atténuation, en tout cas une régulation un peu des saignements, et la plupart du temps une diminution aussi du ressenti des douleurs, parce que ben, du coup, ça y est, c'est fait.
Ok, et ça dure combien de temps à peu près ça? On parle de minutes, d'heures, de jours?
Alors, ça dépend vraiment des femmes. Du coup, il y a des patientes, tu vois, qui vont prendre les médicaments. Au bout d'une demi-heure, elles vont sentir les premières contractions. Deux heures après, elles auront évacué. Et après, elles auront du coup comme des règles et des fonds de règles. Et par contre, ces saignements post-IVG comme des fonds de règles peuvent durer jusqu'à 2 semaines. Voilà, la plupart du temps. D'accord. Mais du coup, l'effet important de saignement, ça peut être l'équivalent, tu vois, maxi de 2 heures. Et après, par contre, il y a des fois des patientes qui vont avoir les contractions ressenties un peu plus tard après la prise du médicament.
Ok. D'un point de vue pratique, comment on se protège? On met des serviettes hygiéniques? On a le droit de mettre des tampons ou pas? Parce que s'il y a un caillot, c'est mieux d'éviter, j'imagine.
Ouais, du coup, ça va être des serviettes. Les serviettes hygiéniques, on évite du coup, après l'IVG aussi, d'avoir des rapports non protégés. Il vaut mieux utiliser des préservatifs pendant 15 jours, d'éviter les bains et les tampons pour éviter le risque au cas où d'une infection qui pourrait se déclarer, même s'il n'y a pas du risque d'infection immédiat. Et ensuite, par rapport au saignement, au maximum, en général, on peut avoir l'équivalent d'une serviette épaisse de nuit qui peut s'imbiber. Et la plupart du temps, le critère pour dire peut-être que là, il faut que j'appelle la sage-femme et peut-être que je saigne trop, c'est si j'ai une serviette de nuit qui s'imbibe toutes les 30 minutes pendant plus de 2 heures.
D'accord, ok.
Et la plupart du temps, ça peut saigner fort, tu vois, d'un coup, parce que ça va être le moment où ça va sortir. Et puis hop, ça se calme, et ça durera vraiment 2 heures.
D'accord, ok. Donc ça, c'est pour l'IVG médicamenteuse. Il y a un suivi particulier derrière?
Oui, du coup, en fait, il faut que dans tous les cas, alors parallèlement aux prises médicamenteuses, on fait une prise de sang. Donc quand on débute une grossesse, il y a un bilan biologique à faire. Si on ne connaît pas son groupe sanguin, c'est important de le savoir, et notamment pour le rhésus, c'est important de le savoir, parce que si la patiente donc, qui a débuté la grossesse est de rhésus négatif, il va être nécessaire de lui faire une injection. Cette injection, c'est des immunoglobulines. Ça veut dire quoi? En fait, quand on débute une grossesse, l'enfant qui aurait pu évoluer aurait été peut-être de rhésus positif ou négatif. S'il est de rhésus positif, notre corps, à nous femmes enceintes, ne connaissant pas le rhésus positif, peut s'immuniser, c'est-à-dire créer une défense immunitaire contre cet élément étranger et sécréter dans notre sang circulant des anticorps contre le rhésus positif. Autant aujourd'hui la patiente a fait le choix d'interrompre ce début de grossesse, autant dans l'avenir, peut-être qu'elle souhaitera un jour être enceinte. Et du coup, nous, professionnels, il faut qu'on anticipe cette possibilité ultérieure pour éviter qu'elle crée cette défense immunitaire dans son organisme. On va lui injecter, du coup, l'équivalent en fait, d'anticorps, et notre défense immunitaire va rester au repos. Je ne vais pas, du coup, créer d'anticorps. Et du coup, dans l'avenir, si un jour je veux être enceinte, je n'aurai pas de soucis particuliers, comme parfois, peut-être malheureusement, des fois avoir une fausse couche, parce que bah, du coup, on n'a pas anticipé ça. Donc, il y a ça. Donc, injection si on est rhésus négatif. Et ensuite, on fait un bilan sanguin. Donc, du coup, on l'a dit, donc, pour le groupage du sang, si on ne connaît pas son groupe sanguin, mais également pour regarder le marqueur de grossesse qui s'appelle les bêta-HCG. Parce qu'il faudra le recontrôler 2 semaines après l'IVG. Et c'est l'évolution, la décroissance, c'est-à-dire la diminution très franche de ce marqueur, qui nous signifiera qu'en plus de ce que l'on a discuté avec la patiente qui nous a confirmé qu'elle a ressenti des caillots et qu'on peut conclure, c'est bon, tout a fonctionné. Et par contre, on ne l'a pas détaillé, avant la prise des médicaments, il était nécessaire et c'est obligatoire de vérifier la date de grossesse et de la localisation. C'est-à-dire que quand on débute une grossesse, parfois, la grossesse peut s'implanter non pas dans l'utérus, mais dans une trompe, ça s'appelle une GEU, une grossesse extra-utérine. C'est très important de savoir, parce qu'une grossesse extra-utérine, on ne peut pas l'arrêter avec les médicaments d'une IVG médicamenteuse. Avant d'accompagner une patiente, il faut une prise de sang et une échographie pour regarder l'évolution, de la date et la localisation de la grossesse. Par contre, ce qui est important de rassurer les patientes qui souhaitent interrompre leur grossesse, c'est que sur l'ordonnance, moi je note toujours possibilité de ne rien voir et rien entendre.
D'accord, on n'est pas obligé de regarder et d'entendre les battements du cœur, par
exactement,
exemple.
Exactement, tout à fait.
On est hyper content d'entendre quand on a envie de continuer la grossesse, mais que j'imagine ça peut être compliqué d'entendre quand on veut l'interrompre.
Exactement. Donc du coup, en fait, ça, on peut le discuter avec la dame, parce qu'il y a des dames, tu vois, pour réaliser, j'ai été bien enceinte, qui ont besoin des fois de le voir, mais la plupart diront, ben oui, moi ça me va bien de rien voir et rien entendre. Elles ont le choix.
Que ce soit pour une IVG médicamenteuse ou une IVG... chirurgie, les éléments à faire avant, c'est les mêmes.
Ouais, toujours, ouais.
Ok, ça marche. Donc, on a détaillé comment ça se passe pour l'IVG médicamenteuse. Comment ça se passe pour une IVG chirurgicale?
Alors, l'IVG chirurgicale, c'est forcément un milieu hospitalier. Donc, du coup, comment aller, tu vois, trouver les professionnels pour les IVG? Donc, on a donc, les sages-femmes libérales comme moi qui sont formées, pas toutes ne sont pas formées. Il y a aussi des médecins généralistes qui sont de formation médecins traitants qui font aussi l'accompagnement des IVG médicamenteuses, même si tu n'es pas leurs patients dans la médecine traitant, ils peuvent te recevoir pour l'IVG. On a aussi les gynécologues de ville. La plupart des gynécologues qui sont en libéral font les IVG médicamenteuses. Et après, il y a les centres de planification familiale aussi pour les jeunes filles qui se sentent parfois plus à l'aise d'aller de façon un peu anonyme à récupérer les informations. Et les centres donc d'orthogénie. Ce terme orthogénie, c'est le terme médical pour dire régulation des naissances et notamment les IVG en fait. Et donc, les centres d'orthogénie, tu en as dans les centres hospitaliers, la majorité, les centres hospitaliers universitaires, c'est sûr, et beaucoup de centres hospitaliers, même privés, font les IVG.
D'accord.
Et donc, du coup, l'IVG instrumentale, ça se fait forcément à l'hôpital, dans un centre, du coup, qui a des gynécologues qui effectuent les IVG chirurgicales. Et donc, l'IVG chirurgicale, ça se passe, du coup, en ambulatoire, c'est-à-dire qu'il faut rentrer à l'hôpital, on va avoir une anesthésie. Alors, la femme peut faire le choix d'une anesthésie locale, c'est-à-dire je peux rester éveillée. L'anesthésiste peut endormir tout le bas de mon corps, mais je ne peux ne pas être endormie en totalité. Soit, la plupart du temps, les patientes font le choix d'avoir une anesthésie générale, courte durée, où elles dorment. Et donc, du coup, ça se fait avec donc un gynécologue, un anesthésiste, à l'hôpital sur une demi-journée ou une journée d'hospitalisation.
Et on n'ouvre pas avec un scalpel, on passe par le col de l'utérus.
Voilà, on passe par les voies génitales. Donc du coup, en fait, les patientes qui écoutent le podcast ont certainement déjà été chez un gynécologue ou une sage-femme, du coup, pour pouvoir observer et voir le col de l'utérus, on met en place un spéculum. Et donc, en douceur, on va permettre au col de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir passer le dispositif qui va aider, du coup, le gynécologue à aspirer, du coup, le contenu de l'utérus.
Ok. On entend parler beaucoup de violences obstétricales depuis quelques années.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des sites qui référencent les professionnels qui sont doux, justement?
Non, ça, c'est le bouche à oreille. Il y a sûrement, tu vois, des forums, je pense, de discussions autour de l'IVG pour pouvoir avoir des retours un peu de professionnels. J'ai envie de rassurer les dames parce que, en tout cas, les professionnels libéraux qui se forment à ça, c'est que du coup, ils ont une volonté d'accompagner.
C'est une vraie volonté du professionnel d'accompagner ça.
Et du coup, ils sont bien traitants la plupart du temps parce qu'ils vont répondre à une demande. C'est compliqué pour les femmes de vivre ça, tu vois, même si, on a la possibilité d'arrêter ce grossesse, mais c'est un processus qui n'est pas évident, quoi. Et donc, du coup, quand tu es un libéral, tu te dois d'être dans la bienveillance. Et j'ai envie de rassurer les dames en disant que ça va bien se passer et que, par contre, il faut, c'est compliqué d'oser, mais en tout cas, on a tous droit de donner son avis et de dire les choses. Et que si la patiente, tu vois, qui va être reçue par un professionnel lambda, sent que bah, du coup le professionnel, il n'est pas du tout bienveillant, je crois qu'on est tout à fait en droit de dire, écoutez, j'entends ce que vous dites, par contre, la façon dont vous me le décrivez, je le vis très mal, quoi. Je ne me sens pas bien d'entendre les mots que vous me prononcez. Voilà, c'est pas évident de faire, parce que du coup, en tant que patient, et je crois qu'on peut tout dire, comme je dis à mes patientes, on peut tout dire avec un sourire. Donc là, avec un sourire, c'est peut-être pas forcément évident parce qu'on est dans un contexte particulier. En tout cas, on peut tout dire dans son ressenti. Autant c'est parfois difficile de dire à l'autre « tu me parles mal », autant c'est peut-être plus facile de dire je vis très mal les mots que vous me prononcez. Et du coup, de pouvoir aussi mettre un reflet, le professionnel, « Oh les gars, là, je suis là et je suis un être humain et t'as pas à me parler comme ça. » Et je crois que l'idée, c'est...
Oui, on a le droit de le dire, oui.
Ah ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui est proposé aux femmes qui ont la volonté d'arrêter leur grossesse ?
Ouais, c'est obligatoire de proposer. Et c'est obligatoire d'être effectué par les jeunes filles mineures qui ne sont pas majeures. Quand on est majeure, on se doit d'avoir la proposition du professionnel qui donne l'information. Et ça fait partie du cursus remboursé par la CPAM, d'une consultation. Alors, c'est étiqueté avec une conseillère conjugale et familiale. Comme j'essaye de dire aux patientes, ce n'est pas pour aller faire le point sur votre couple, c'est pour pouvoir avoir du coup une écoute et une personne qui est formée pour pouvoir re-verbaliser avec vous le choix que vous avez fait et vous permettre d'intégrer ça dans votre histoire et que vous puissiez bien vivre les choses. La plupart des patientes, moi, que j'ai, sont majeures, j'ai peu de mineures. Je leur ai toutes proposées. Et pour l'instant, il n'y en a qu'une qui a voulu voir une conseillère. Alors après, parce que moi aussi, ça me tient à cœur, tu vois, je les accompagne, je fais en sorte vraiment d'être là. Le jour où elles font l'IVG, téléphoniquement, je leur dis, vous avez mon numéro, à tout moment, je préviendrai mes patientes, je vous réponds si vous m'appelez. Je les appelle le soir même, je les revois. Et après, des fois, je repropose toujours la visite de contrôle 15 jours après. Comment vous avez vécu les choses? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Sachez, je vous le rappelle, à tout moment, même si c'est terminé aujourd'hui, vous pouvez venir et je vous donne les coordonnées de la conseillère conjugale pour que vous puissiez, si besoin, en rediscuter.
D'accord. Et tu parlais justement des mineurs. Est-ce qu'il y a un âge limite en dessous duquel on n'a pas le droit d'avorter? Ou est-ce que n'importe quelle jeune fille... Quel que soit son âge, elle a le droit à l'IVG et est-ce qu'elle est obligée de prévenir ses parents et d'avoir l'accord de ses parents ?
Non. Alors du coup, voilà, pour répondre à la question, il n'y a pas de limite d'âge, donc limite basse. Il n'y a pas d'obligation d'informer les parents. Par contre, en tant que mineur, on a l'obligation d'avoir un accompagnant et avoir quelqu'un de majeur qui soit informé. Parce que ben, du coup, c'est quelque chose effectivement qu'il faudra accompagner. Et donc du coup, la loi impose en fait majeur accompagnant.
D'accord, donc elles peuvent choisir la personne majeure de confiance qu'elles veulent avoir avec elles, mais ce n'est pas obligé d'être un parent.
Exactement.
Est-ce que tout ça, c'est pris en charge par la Sécurité sociale ?
Oui, tout à fait. Donc c'est pris en charge totalement. Quand on va en consultation vers un professionnel, on a une partie, souvent 70% pris en charge à la CPAM, et une autre partie par notre mutuelle. Là, dans le forfait IVG, tout est pris en charge par la CPAM à 100%. C'est-à-dire qu'il y a zéro avance de frais, ni normalement pour les échographies, les bilans sanguins, ni pour les consultations d'avant et après l'IVG. Donc après, il faut par contre que le professionnel soit attentif. Tu vois, moi, quand je prescris les bilans sanguins et les échographies, je marque le code, si tu veux, de l'acte qui est pris en charge à 100%. Je demande l'autorisation à la patiente, si elle est OK, que je stipule sur l'ordonnance dans le contexte IVG, parce que malheureusement, des fois, tu as des laboratoires de ville qui ne sont pas forcément au juste des cotations. Il n'y a aucun avancement de frais à avoir pendant tout le parcours.
D'accord, OK. Tout à l'heure, on parlait des complications. Est-ce que c'est fréquent les complications ou est-ce que c'est très rare et ça consiste en quoi ?
Alors, il y a des complications qui existent. La première complication, ça peut être du coup un échec. Donc, même si ce n'est pas une complication proprement dit, si on a un échec d'IVG, ça reste une complication médicale. Donc, du coup, l'IVG médicamenteuse, ça va être la patiente, tu vois, qui pense avoir évacué suffisamment et on se rend compte que la prise de sang et aux symptômes, ce n'est pas aussi franc. Donc du coup, dans ce contexte-là, elle revoit en milieu hospitalier, soit elle reprend les médicaments qui vont re-entraîner des contractions pour finir d'évacuer, soit on peut s'apercevoir qu'il est nécessaire de faire une opération, donc prendre le relais sur une IVG chirurgicale. Donc ça, c'est une première complication. L'IVG chirurgicale, l'échec est très peu probable, puisque du coup, là, on enlève tout au moment de l'opération. On peut avoir le risque de l'infection, notamment les patientes qui prennent les médicaments. Je leur dis, le jour même, votre corps peut, en travaillant, avoir une augmentation de température de façon modérée la première journée. Par contre, normalement, je n'ai pas de fièvre les jours qui suivent. Donc, toute fièvre qui va s'en suivre après l'interruption, soit chirurgicale, soit médicamenteuse, doit motiver à reconsulter pour être sûr qu'il n'y a pas une infection, en sachant que la fièvre est un élément qui peut très bien être tout autre qu'une infection en lien avec l'IVG. Mais l'infection fait partie des complications. on a après, du coup, les complications, du coup, d'hémorragie. L'hémorragie, c'est le terme médical de dire j'ai trop de saignements. Et du coup, ben, ma santé peut se sentir ennuyée par une anémie ou trop de saignements. Et du coup, ma vie tout court hein, peut être mise en danger. Donc, je rassure les dames, hein, c'est très rare. Mais le critère tout à l'heure qu'on a discuté des saignements, l'histoire des serviettes de nuit. Si je saigne plus qu'une serviette de nuit imbibée fortement toutes les 30 minutes plus de 2 heures, c'est que peut-être j'ai des saignements trop importants. Alors pourquoi je dois avoir un saignement ? Parce que ben, du coup, la grossesse qui s'était positionnée dans l'utérus en s'enlevant, du coup, peut laisser un vaisseau sanguin qui reste ouvert, en fait, un peu comme un robinet ouvert trop fortement. Il a eu du mal à se refermer et du coup, ben, il faut aller à l'hôpital parfois pour arrêter ce saignement.
Est-ce qu'il y a un risque important si on a eu recours à une IVG dans sa vie, de ne pas pouvoir tomber enceinte ensuite, ou c'est vraiment une complication très très rare?
Voilà, ça c'est super rare. C'était les trucs, tu sais, qui étaient vraiment véhiculés ça auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui est très rare. Parce qu'en fait, si tu veux, pour débuter, pour que la grossesse évolue bien, c'est la muqueuse qu'on appelle l'endomètre de l'utérus qui doit être propice, un peu comme un nid, pour accueillir la grossesse. Oui. Et bien cette muqueuse de l'utérus, donc ça s'appelle l'endomètre, c'est tous les mois qu'elle se fait. Et donc en fait, il suffit d'un épisode de règles pour que ta muqueuse soit de nouveau bien. Donc par contre, ça c'est super important de donner l'information, tu vois, aux dames qui font les IVG, parce que du coup, je peux très bien redébuter une nouvelle grossesse le cycle d'après.
Oui, ça peut revenir très vite, donc il faut être vigilant. C'est pas parce qu'on a eu une IVG que le cycle suivant, on peut pas retomber enceinte.
Exactement, tout à fait. Et en tout cas, il n'y a aucune complication. L'IVG ne va pas abîmer notre corps, ne va pas du coup faire en sorte que ben, du coup, le jour où je serai prête et que j'aurai envie d'être mère, j'ai des difficultés à tomber enceinte. Si jamais un jour plus tard, je n'ai pas de facilité à tomber enceinte, le lien avec l'IVG, il est exceptionnel et je pense qu'il est, on peut dire, quasiment nul. Après, là, on est sur des contextes voilà, où on était accompagné, où l'IVG a été fait dans des conditions favorables avec toute la surveillance médicale et ce parcours que l'on a décrit un petit peu à une époque et pas si lointaine. Dans les années 70, avant qu'on ait l'autorisation de l'IVG, il y a des femmes qui faisaient des IVG...
Oui, sauvages, entre guillemets.
Ouais, et là, il y avait des grosses complications. Là, pour le coup, les femmes elles prenaient énormément de risques.
Oui, et malheureusement, il y a encore des pays où c'est le cas.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on peut avoir recours à plusieurs IVG dans sa vie ?
On n'est pas limité. Après... Alors, il y a toujours des exceptions, hein, mais je ne suis pas sûre, tu vois, que les femmes qui ont vécu ces expériences-là te diront « super, c'est trop bien, je vais le refaire tous les 3 matins ». Oui. Donc, du coup, les patientes qui ont eu plusieurs IVG, ben, la plupart du temps, voilà, c'est dans le contexte en plus actuel où tu échanges beaucoup avec les femmes, j'ose espérer qu'on en verra de moins en moins, c'est parce qu'on essaiera de bien les accompagner, tu vois, essayer de se mettre à leur place, de comment elles vivent, pourquoi elles arrivent à ça. Et, mais en tout cas, il n'y a pas de limitation et c'est déjà arrivé à certaines dames, tu vois. Et il ne faut pas se jeter la pierre et se culpabiliser à se dire « Oh là là, j'ai fait encore une IVG, je suis une nulle, ça ne va pas du tout, quoi. » On fait du mieux qu'on peut. Il y a un adage moi, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est on fait du mieux qu'on peut avec les cartes de l'instant. Et, ouais. Et nous, on est là en tant que soignants. On est censé être sans jugement pour les aiguiller, les aider du mieux possible. Mais en tout cas, si un jour une femme a fait une IVG qui nous écoute là et que pas de bol, le cycle d'après ou 2 cycles d'après, elle retombe enceinte et que ce n'est pas attendu, qu'elle ne perde pas de temps à reconsulter le professionnel pour l'accompagner, pour interrompre de nouveau cette grossesse si c'est ce qu'elle souhaite. Quoi. Et médicalement, ça ne va pas poser plus de soucis que ça. Donc après, je me mets à la place que peut-être, tu vois, si tu poses cette question, c'est que peut-être certaines dames se seront peut-être dit bah, « j'ai déjà fait une ou 2 IVG, mais tant pis, cette grossesse, on l'accueille ». Et après, est-ce que je vais bien vivre cette grossesse ? Est-ce que je vais bien vivre ma parentalité ? Je crois quand même l'enjeu est tellement énorme que du coup, il ne faut pas se poser 1000 questions et se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, quoi. Ça, c'est souvent ce que je dis aux dames hein, quand, parce que je vois aussi des patientes du coup, qui sont enceintes quand elles vont accoucher. Tu vois, on parlait des violences obstétricales ou des violences aux femmes. Je leur dis, quand vous allez arriver à maternité, en fait, il faut que vous posiez 2 questions avant d'y aller. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Et avec ces 2 questions-là, ben, on sait. Et du coup, c'est savoir s'écouter, se faire confiance.
Ok. Écoute, je pense que j'ai passé toutes mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ?
Je trouve que c'est un droit, et, un droit vraiment nécessaire à conserver qui pourrait être élargi. Là, ils sont en train, au niveau ministériel, d'essayer d'augmenter le délai Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que, tu vois, moi, j'habite dans la région donc sud de la France, proche de l'Espagne. Dans le cheminement, rien que tu vois, j'ai mon retard de règles. Mince, est-ce que c'est normal? Le temps que je percute le truc, que je fasse un test de grossesse, que je réfléchisse, mince, est-ce que oui ou non je veux garder la grossesse? Est-ce qu'il y a un professionnel dans les parages que je peux voir? Quand est-ce que je vais avoir mon rendez-vous? Tout ça fait que, mine de rien, les jours et les semaines passent super vite, hein, et qu'il y a beaucoup de patientes qui sont hors délai parce que, ben, du coup, elles ont juste besoin de ce temps pour intégrer et faire en sorte que cette décision soit prise. Et du coup, il y a des patientes qui vont en Espagne parce que le délai est un peu plus large pour pouvoir arrêter cette grossesse. Et donc, du coup, en France, je trouve que c'est un peu border, c'est-à-dire que le 14 semaines d'aménorrhée, il peut être limite et très rapidement, en fait.
Oui, il peut arriver très vite.
Ouais. Et du coup, là, ils sont en train de voir au niveau ministériel pour allonger de 2 semaines. Et ça, je crois que c'est une super idée parce que du coup, ça mettrait peut-être moins d'embarras aux femmes, moins de complications à trouver un autre endroit. Et peut-être, même si moi, j'accompagne aussi des femmes enceintes qui sont très heureuses dans la parentalité et la grossesse, et que des fois, ces grossesses, au départ, qu'on ne sait pas trop si oui ou non on va continuer, finalement, on accueille cet enfant et ça se passe très bien. Je me dis que si ça peut alléger au niveau émotionnel des femmes, de la culpabilité, voilà, les enfants que l'on va accueillir, ben, c'est bien, voilà, de les accueillir dans de bonnes conditions. On a ce choix-là et je trouve que c'est super. Et tu vois, dans la patientèle que j'accompagne, il y en a certaines qui n'ont jamais eu d'enfant, mais beaucoup de femmes que j'ai vues, en fait, c'est des IVG qui sont arrivées après avoir eu des enfants et que du coup, ce n'était pas au bon moment. Et je trouve que c'est bien d'avoir possibilité, voilà, de choisir quand est-ce qu'on peut accueillir. Et après, bien sûr, que si le choix, on peut l'avoir avec une contraception, c'est toujours peut-être plus confortable émotionnellement qu'avec ce choix d'interrompre une grossesse qui vient de débuter. On a beau faire du mieux possible dans l'information de la contraception, il y a toujours autant de ratés. En fait, on ne vit pas à la place des femmes. La contraception, c'est un élément parmi plein de choses. C'est multifactoriel, le raté qui aboutit à une IVG. Donc, le conseil pour les patientes qui écoutent ça, soit parce qu'elles ont vécu une IVG, soit parce qu'elles vont peut-être se dire « si un jour j'en ai besoin », c'est d'essayer, voilà, de faire au mieux, d'essayer notamment du retour d'expérience. C'est de réfléchir quand on va faire le choix de la contraception. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est compatible à ma vie? Parce que ça, du coup, tu te rends compte dans le retour des patientes. J'ai l'impression que dans les ratés que j'ai vus de patientes concernant la contraception qui ont abouti à une IVG, c'est ces patientes qui se sont fait imposer involontairement, peut-être, leur contraception. Le gynécologue, il m'avait dit qu'il fallait mettre ça ou ça, ou la sage-femme m'avait dit que c'était mieux pour moi.
Oui, donc finalement, tout commence par le choix de la contraception qu'on fait pour qu'elle soit adaptée à notre mode de vie et à notre mode de fonctionnement.
C'est ça. Écoutez-vous, osez avoir vos idées. Et par contre, c'est super important, osez les exprimer au professionnel qui vous accompagne pour que lui se mette à votre place, à se dire « bon, mais ok, parce qu'elle m'a dit ça, en fait, là, je me rends compte que moi, il me semblait que sur le papier par rapport à ses antécédents, c'était ça qui était bien, mais en fait, pas du tout, parce qu'elle me raconte ça, quoi. » Donc, du coup, c'est de pouvoir aussi aiguiller le professionnel et oser, voilà, dire « ben, moi, je veux ça, je veux pas ça, ou... » Parce que du coup, finalement, choisir sa contraception, c'est vraiment ça qui est la mieux, quoi.
Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver des informations détaillées sur les interruptions volontaires de grossesse sur le site www.ivg.gouv.fr. Laetitia fait partie du réseau Révoque, réseau pour favoriser la prise en charge de l'IVG et de la contraception en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui permet de trouver des professionnels pour vous accompagner. N'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux qui existent proches de chez vous. Enfin, si vous souhaitez vous renseigner sur les moyens de contraception, vous pouvez consulter le site www.choisirmacontraception.fr. Ce site vous propose également de vous aiguiller vers la contraception qui pourrait vous correspondre le mieux. Cela ne remplace pas une consultation chez un professionnel de santé, mais peut vous aider à préparer ce rendez-vous. Je vous mets tous les liens dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.